On marche pas. Ouais, salut, vous êtes sur une des chaînes. Donc on va commencer par un petit texte de notre envoyé spécial en Mongolie. Partout, les conditions sont différentes, mais les mécanismes les mêmes. Frontières omniprésentes. Ici, Mongolie. Ici, comme ailleurs, espace quadrillé, délimité. Barrage routier à chaque entrée de ville, flic. Vous décidez alors de prendre le train, le bus, passport, please. Et puis, réserve naturelle décrétée par qui, je ne sais pas, avec paiement d'une taxe à l'entrée. Ou encore, zone frontalière dite sensible, où il est interdit d'aller se promener sans autorisation express de l'officier machin chose à Oulan-Bator, sous peine d'un petit séjour au poste militaire. Ici comme partout, apologie de ce découpage géographique, la nation, la puissance de l'État. Parfois, le culte de la démocratie. Parfois, la nostalgie entretenue d'un empire d'il y a bien 800 ans, de sa splendeur passée. Adoration du grand Genghis Khan. La propagande d'État fonctionne. Nous ne sommes que le résultat de nos apprentissages successifs. Une limite donc, celle de la connaissance. Et d'autres encore, plus diffuses, plus insidieuses. Celle qui sépare les genres, par exemple. Parce que, mettons que vous soyez une femme, ici ou ailleurs. Il y a des temps et des zones où vous sentez que vous êtes simplement indésirable. Et d'autres où vous vous sentez que vous êtes seulement désirable, objet de leur désir plutôt. Mettons que vous soyez une femme assez costaude donc, car la vie est une guerre. Des limites encore. Celle de l'état de vos finances, bien sûr. L'or dans les sous-sols. Il y a ceux qui le cherchent et ceux qui l'ont trouvé, se sont assis dessus et regardent les autres crever la bouche ouverte. Ou l'uranium. Areva s'en occupe. GDF Suez pour l'énergie. Et d'autres. Il en arrive. Ça ramène du monde. 17% de croissance. Profitant de ces circonstances favorables, l'ambassade de France vient de créer un poste de développement économique, histoire d'implanter quelques entreprises. Car le grand capital, lui, a peu de limites. La vie est une guerre et nous sommes cernés. L'espace est à eux, reprenons-le. Détruisons toutes les frontières. Solidarité avec les sans-papiers en lutte à Marseille et ailleurs. Solidarité avec tous et toutes les révoltés.
Salut à tous, donc c'est la grande émission de la rentrée, on se retrouve un peu plus au complet avec ce soir donc une émission qui se passera sur l'actualité brûlante de Marseille et avec en deuxième partie une partie d'émission sur l'actualité critique. La semaine à venir. Ça commencera le premier rendez-vous à partir de mercredi. Mercredi. Donc avec un débat qui va se passer et une projection de trois documentaires dont le thème est sécurité démocratique et résistance sur ce qui se passe en Colombie. Ça se passe à la caserne, donc mercredi 12 à partir de 20h30. Il y aura une projection de trois documentaires par rapport à ce qui se passe là-bas. En attendant, je vais donc vous lire le petit tract d'appel qui s'est envolé je sais pas où. Mon petit tract d'appel, il est là, voilà. Avec le credo politique du président Santos, prospérité pour tous, les transnationales ont renforcé le pillage des terres riches en or et en pétrole. Sous couvert de sécurité démocratique ou de lutte antiterroriste, les compagnies minières, par ses mercenaires privés ou de l'État, exproprient les habitants, violent, torturent, enferment, assassinent et massacrent les récalcitrants. Plus de 5 millions de déplacés par la violence, 8 000 prisonniers politiques. Face à eux se dressent différents opposants dont les Indiens Nasa du Nord Cauca. En lutte depuis 500 ans pour la défense du territoire et de leur autonomie, ils ont compris que c'est avec tous les exploités que les choses pourraient fondamentalement changer, sans avant-gardisme ni action médiatique, mais en assemblée et dans le partage d'expériences collectives. Pour tenter de comprendre un peu ce qui se passe là-bas, donc il y aura une projection de trois documentaires, dont deux qui sont réalisés donc par les Nasa, là, donc les Indiens Nasa du Nord Cauca. Voilà, donc c'est à 20h pétante, mercredi à la caserne. Voilà, et pour continuer, donc la caserne c'est aux 3 rue Masséna, c'est l'ancienne caserne ex. 1 rue Masséna, oui, pardon, 1, 3, 1. Tu l'as le micro si tu veux.
Oui.
Tu l'as le micro si tu veux. Et voilà. Ensuite, pour continuer sur l'actualité, il y a un deuxième rendez-vous qui, lui, se passera, on vous en parle depuis donc un an maintenant, à la cuisine, donc ce vendredi, parce que comme tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, c'est donc la cantine pour cantiner, qui ne... donc une bouffe organisée... Voilà. Une bouffe qui est organisée donc tous les deuxièmes vendredis de chaque mois pour permettre à des prisonniers, donc à un prisonnier notamment spécial, donc Michel, de cantiner, c'est-à-dire de lui envoyer les sous tous les mois pour lui permettre de se payer tout ce qu'il y a à se payer, à bouffer, la bouffe un peu meilleure, jusqu'à tous les trucs dont on peut avoir besoin tous les jours. Cette fois-ci, il n'y aura pas de projection ou d'écoute sonore avant le repas. Mais c'est à partir de 19h-19h30, donc apéro, apéro ramène ce que tu as envie de boire à l'apéro, et la bouffe se passera à partir de 19h30-20h, une bouffe très sympathique et succulente avec une ambiance du sud-ouest. Voilà, il y aura un petit info-kiosque, toutes les thunes voilà, vont en solidarité avec ce prisonnier et parfois vont aussi à des gens qui en ont besoin sur le moment. Voilà, et quant à la situation de Michel, donc je crois que les camarades en ont parlé la semaine dernière, qu'il est dans une situation un peu spéciale parce qu'il va rentrer une énième fois de plus en conflit avec l'administration pénitentiaire par rapport à un transfert qu'il voudrait avoir et qu'il n'a pas, et que donc il est dans la merde et que ça fait partie de toute cette révolte, lui comme tant d'autres, qui ne sont pas relayés et qui ne le seront pas. Et voilà, et ce qui nous permet aussi d'avoir des petites discussions autour de la prison et du rôle qu'elle joue aujourd'hui dans cette société. Voilà, donc ça c'est vendredi à partir de 19h ou 19h30 à la cuisine au 36 rue Bernard, donc c'est dans le 3e à la Belle de Mai, la cantine pour cantiner. Et la semaine se terminant le dimanche. Dimanche, il y aura une projection en plein air au jardin de Gibraltar. Alors à partir de 19h, c'est une bouffe à prix libre. Il demande donc d'apporter votre boisson. C'est organisé par le Ciné Dada. J'ai oublié de le dire, mais voilà, organisé par Ciné Dada. Vous pouvez aller voir sur leur site Ciné Dada. Et à 20h30, donc projection du film documentaire, film qui s'appelle Enfermé vivant, qui dure 90 minutes. Et après, il y aura une discussion avec donc les quelques acteurs de ce film. Alors en fait, ce film, il a été réalisé par un réalisateur, donc, et dedans, il y a trois acteurs. Il y a deux personnes qui ont passé de longues années en prison, donc qui ne sont pas acteurs donc de profession, et un autre qui, lui, l'est, et ça met en scène, si vous voulez, ce qui se passe avec un nouvel arrivant. Donc, quand il y a un nouvel arrivant qui arrive dans une cellule pour deux. Voilà. Le documentaire dure 90 minutes. Il y aura une discussion avec certains protagonistes après. Voilà. Donc, on vous invite vivement à y aller dimanche à partir de 19h au jardin de Gibraltar. Voilà. Et comme M. Deschênes aime bien se la péter parfois, on va faire une petite rentrée littéraire.
Moi, c'est micro jaune.
Alors, toi, c'est micro jaune.
Moi, c'est micro jaune. Ouais, voilà, comme il aime bien se la péter un peu. Et il va faire sa petite chronique littéraire.
Voilà. Alors, la petite chronique littéraire. En fait, il y a un livre qui est sorti cet été.
Ah, ça commence bien.
Dont peu de personnes entendront parler, parce que, voilà, qui s'appelle Angry Brigade. Élément de la critique anarchiste armée en Angleterre. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture. Dans la nuit du 12 janvier 1971, la couverture du Times est explicite. Deux bombes ravagent la maison de Carr, un jour de protestation. Robert Carr était à l'époque le ministre de l'Emploi du gouvernement Heath, conservateur, fraîchement élu. Il était responsable du projet de loi sur les relations industrielles, adopté un peu plus tôt dans la journée, et provoquant de nombreuses manifestations ouvrières. Cette attaque directe sera revendiquée par un groupe nommé Angry Brigade. Dans un contexte de tension sociale généralisée, telle que l'Angleterre n'en a plus connu depuis. Au moment où dans toute l'Europe et sur tous les continents, de nombreux groupes s'organisent pour attaquer physiquement les structures du capitalisme et un certain ordre moral que les années 68 n'auront pas réussi à mettre en pièces. Des vagues de protestations massives apparaissent un peu partout, une jeunesse désillusionnée par un système qui ne cesse de se doter de moyens toujours plus efficaces pour broyer les individus et fossoyer les rêves d'un autre monde. Mais une jeunesse exaltée par la perspective d'une transformation radicale de l'existant. Voilà. Alors, il a été achevé d'imprimer en juillet 2012, donc cet été, sur les presses du Taquet Frontal à Lille. Voilà. Vous pouvez vous procurer ces exemplaires en nous contactant, donc nous, ND Chaîne par exemple. Mais aussi en les contactant eux. Et là, il y a une adresse internet qui est ravage@riseup.net. Riseup, ça s'écrit R-I-S-E-U-P.net. Voilà. C'est assez intéressant. Ça parle surtout de lutte. Voilà. Donc, tout est fait aujourd'hui pour qu'on les oublie, comme ça s'est passé dans tous les pays d'Europe, pour que tout le monde oublie les luttes qui se sont passées dans les années 70, début des années 80, en France, en Allemagne, en Italie. Et voilà. Donc, ça raconte un peu ce qui s'est passé à ce moment-là en Angleterre. On le conseille vivement, sachant que ce bouquin, il est pas très cher. Il coûte 5 euros, 4 euros à partir de 3 exemplaires. Et bien sûr, le but, c'est de le diffuser le plus largement possible. Donc, la maison d'édition dit que voilà, si vous participez à une librairie, une bibliothèque, un infokiosque, n'importe quoi, ce que vous voulez, et que vous souhaitez distribuer le livre ou organiser une présentation, n'hésitez pas à les contacter à l'adresse internet ravage@riseup.net. Voilà, je crois que on a donc fini à peu près avec l'agenda sur une difficulté technologique et un son de merde, on peut le dire, qui résonne de partout.
Et voilà, la petite touch de Radio Galère. Et après, dans les actualités, vous n'aurez pas manqué effectivement tout ce qui se passe en ce moment au CRA. Et donc, du coup, on va vouloir vous en parler forcément. Vous avez entendu parler pas mal sur ces ondes-là, donc autour de ce qui s'est passé à l'intérieur, aussi sur ce qui s'est passé à l'extérieur. Mais peut-être, si notre DJ favori est en place, on pourra peut-être écouter une petite musique
à fond,
voilà, avant de commencer sur cette histoire-là, et peut-être vous donner encore de nouveaux rendez-vous dans la lutte contre les centres de rétention. C'est pas de l'eau, c'est pas de l'information,
et on se retrouve,
c'est des gens. On se retrouve juste après ça.
La musique. Deschênes aime bien les boulettes.
Me quieren llevar.
viene buscando a un gánster.
Vous êtes toujours sur une des chaînes 88.4. Donc voilà, on va revenir un peu sur ce qui se passe, ce qui s'est passé pendant tout l'été et ce qui se passe encore au mois de septembre dans les centres, enfin dans le centre de rétention de Marseille, Le Carnet. Donc on vous en a déjà parlé la semaine dernière, mais donc il y a 10 jours à peu près, il y a eu un incendie qui s'est déclenché dans le centre et qui a provoqué la fermeture d'un des blocs. Donc voilà, on va commencer peut-être par un petit montage, donc un texte qui s'appelle Lutte de crasse, qui était paru dans une brochure qui est parue cet été et qui revient un peu sur plus généralement sur en quoi la question des sans-papiers est mêlée à la question de la lutte contre le capital en général et de la gestion des mouvements migratoires, etc. etc.
L'économie capitaliste en général.
Et donc aussi, en fait, de savoir que les sons qu'on va entendre là font partie de ce que des sons qu'on était tentés de faire entendre vers l'intérieur durant la manifestation qui a eu lieu samedi, où donc effectivement il y a eu beaucoup de monde qui sont venus, malheureusement pas assez pour pouvoir réellement approcher davantage.
Ouais, pas les 2000 dont on avait parlé.
Voilà, non pas les 2000 qu'on attendait, mais effectivement, on était quand même plus que les 20 qu'on a l'habitude de voir. Et donc, et bah, alors du coup, montage, c'est comme si vous y étiez sans être dedans réellement. Voilà. Si vous étiez dedans, vous auriez entendu ça.
Lutte de crasse. Pour les patrons, l'exploitation des travailleurs migrants est une réponse efficace et pas chère aux exigences actuelles du mode de production de la marchandise, de la valeur et du profit. En effet, le capitalisme tire en partie sa dynamique de la circulation. Plus la circulation de la marchandise s'intensifie, plus elle prend de la valeur et plus elle rapporte de l'argent. Par circulation de la marchandise, il faut entendre aussi bien circulation financière, de l'information, des biens de production et de consommation, mais aussi des travailleurs. La mobilité s'impose aujourd'hui comme faisant partie intégrante de la condition du travailleur. Autrement dit, pour survivre, il va falloir se rendre mobile. Ici, d'un petit boulot de merde à l'autre, là-bas, d'un continent de merde à l'autre. Les travailleurs migrants sont une main-d'œuvre flexible, que les patrons peuvent employer au coup par coup, pour des missions précises, une saison, un chantier, au même titre que les intérimaires, ceux qu'on fait travailler au black ou à coup de contrat précaire. Les sans-papiers forment ainsi les régiments de prolo, qui permettent pour nombre de secteurs d'effectuer une confortable délocalisation sur place, BTP, restauration, services, agriculture. Cela permet aux patrons d'exercer une pression sur le marché du travail et de niveler les salaires vers le bas pour l'ensemble des travailleurs. Ainsi, le but des politiques migratoires, ce n'est pas que le territoire devienne un bunker, ni même une forteresse, mais bien de se doter des moyens de trier les migrants en fonction de leur profil et des besoins spécifiques du marché du travail. L'immigration choisie, tout est là.
Dans ce monde de la mobilité obligatoire, dans cette société à grande vitesse, c'est par la multiplication des frontières dans notre quotidien que les dominants entendent nous tenir à l'œil et au boulot. Plus la mobilité des personnes et des marchandises s'accroît, moins leur contrôle est évident. Et qui dit moins de contrôle, dit moins d'argent. Pour y remédier, il faut disséminer la frontière dans l'espace afin de créer les conditions d'un contrôle omniprésent et permanent. De ce point de vue, le contrôle des migrants est un terrain d'expérimentation autant qu'un bon révélateur des pratiques de contrôle généralisé de la population. La traque quotidienne des sans-papiers accompagne la banalisation des pratiques de contrôle policier. Le contrôle de papier sert aussi de prétexte au contrôle tout court. Le fichage administratif précède l'extension du fichage policier et les dispositifs d'arrestation de sans-papiers, en particulier les rafles, renforcent l'occupation policière de nos quartiers. La frontière est bel et bien un mode généralisé de gestion de la population et pas seulement une conséquence de l'ordre économique de ce monde. Des grilles du centre de rétention aux bornes biométriques des cantines scolaires, des portiques du supermarché aux caméras intelligentes dans les gares, les aéroports et la rue, du fichage ADN au fichage bas élèves pour les mineurs scolarisés, les dispositifs de contrôle sont devenus notre quotidien. On sent que la frontière est diffuse tout autour de nous et qu'elle peut se matérialiser à tout moment pour nous radier, nous arrêter, nous enfermer.
Les migrants, avec ou sans papier, nous rappellent sans cesse que ce ne sont pas nous qui traversons les frontières, mais bel et bien les frontières qui nous traversent, nous isolent et nous divisent. Alors que la précarité devient la condition sociale la plus généralisée, et tandis que nos marges de débrouille pour survivre individuellement se réduisent, la tendance est plutôt au repli identitaire et à l'atomisation. Le climat de peur et de solitude face à la répression est le meilleur effet de l'éclatement de la frontière. Aussi, nous ne pouvons que saluer les tentatives qui battent en brèche la résignation quotidienne et nous solidariser de ces résistances. Lorsque les habitants d'un quartier résistent contre les expulsions locatives, lorsque des passants dans la rue s'opposent à des interpellations, lorsque des révoltes éclatent dans les centres de rétention, nous pensons qu'il est important de ne pas les laisser isolés. Agir en solidarité est aussi un moyen de renforcer le rapport de force. La solidarité est une arme pour briser certaines de nos frontières. Nous ne sommes pas solidaires de la misère, mais de la vigueur avec laquelle les hommes et les femmes ne la supportent pas.
Ouais. Ouais. Voilà, donc c'était un texte que vous pouvez retrouver sur une brochure qui est parue cet été, et où il y avait aussi une chronologie qu'on vous a déjà passée, et plusieurs autres textes. Il y a une nouvelle brochure qui est sortie qui s'appelle du coup Lutte de crasse, où il y a un autre texte qui s'appelle D'incident en incendie, et aussi une nouvelle chronologie qui part donc du 27 août jusqu'au 6 septembre, qui est donc sur les derniers événements qui sont arrivés au CRA depuis, enfin un petit peu avant et depuis l'incendie. Et voilà, donc on va vous passer un petit montage qui a été fait sur cette chronologie.
Dans la semaine du 23 au 28 juillet, un retenu se taillade le bras. Il est amené menotté à l'infirmerie. Le docteur lui fait une piqûre. De retour à sa chambre, il s'endort pendant 18 heures.
Mardi 31 juillet. Le soir, Duchit est envoyé de l'extérieur dans la cour de promenade. Un retenu le prend. Les flics l'identifient à l'aide des caméras. Ils l'emmènent dans une pièce sans caméra. Ils utilisent une matraque électrique pour le mettre au chaos. Une fois au sol, il le frappe. Ce sont toujours les trois mêmes flics qui agissent. Pendant que deux sont à l'intérieur et tabassent, le troisième reste devant la porte fermée pour couvrir ses collègues. Mardi également, une femme retenue depuis le 29 juin a été conduite en urgence à l'hôpital de la Conception, où elle se trouve entre la vie et la mort, suite à l'ingestion de substances. Après avoir refusé deux expulsions par avion, elle avait été placée en cellule d'isolement en attendant une troisième expulsion, prévue pour le mardi. Dès 19h environ, elle avait appelé sa famille pour lui dire qu'elle souffrait depuis sa mise à l'isolement, de violents maux de ventre et pour se plaindre de violences de la part des policiers intervenus pour la maîtriser. De source médicale, ses poignets présentent des traces de menottage, ce qui indiquerait qu'elle a été attachée dans la cellule, et son visage présentait des hématomes. Les policiers du centre n'ont appelé les pompiers qu'à 1h du matin, soit 10h après sa mise à l'isolement, et 6h après son appel à l'aide auprès de sa famille. La retenue en question a subi une greffe du foie. Elle a obtenu un visa sanitaire.
Dimanche 5 août, dans un bâtiment du centre, la télévision collective est détruite.
Vendredi 10 août, les briquets sont interdits dans le centre. Pour allumer leurs cigarettes, les retenus doivent sonner à l'interphone afin que les flics viennent les allumer. Les flics se rendent compte qu'un retenu cache un briquet. Ils lui confisquent et le tabassent. Le retenu n'en reste pas là. Il sonne à l'interphone sans discontinuer pendant une demi-heure, jusqu'à ce qu'un flic vienne, le maîtrise au sol, l'écrase et lui dit qu'il ne lui donnera pas de feu.
Mercredi 15 août, un retenu malade demande à voir le médecin. Le médecin n'étant pas là, il demande à aller à l'hôpital. Pour seule réponse, les flics le tabassent. En réaction, tous les retenus du bloc entassent leurs matelas dans la salle commune et menacent de les faire cramer. Un autre bloc fait de même. La police n'intervient pas et attend le retour au calme. Ils font les gentils pour qu'on se calme. Pour les flics, les sans-papiers, c'est comme les moustiques, ils nous écrasent.
Pendant le repas du soir, les retenus énervés de manger toujours la même merde, nourriture périmée et non halal, foutent le bordel dans le réfectoire. Ils jettent la nourriture par terre et dans la gueule de quelques flics présents. Très vite, d'autres flics arrivent, armés de matraques électriques qu'ils utilisent sur au moins un retenu. Les retenus n'ont pas le choix, ils nettoient.
Jeudi 30 août, un retenu qui avait déposé une plainte auprès de Forum Réfugiés contre un flic qui l'avait étranglé demande la plainte sur papier pour son avocat. Forum Réfugiés dit qu'ils n'ont pas enregistré la plainte sous prétexte de ne pas porter de tort au retenu. L'avocat intervient. Il devra se déplacer au centre avec un interprète afin que Forum Réfugiés enregistre la plainte. Encore une fois, Forum Réfugiés choisit son camp.
Samedi 1er septembre. Pendant le repas de midi, les retenus s'aperçoivent que sur l'emballage des barquettes, il y a une étiquette collée sur la première qui est déjà périmée de quelques jours, du 28 août 2012. La seconde indique une péremption le 2 septembre 2012. Les retenus en colère refusent de manger et jettent toute la nourriture par terre et dans la gueule des flics. Sous la menace, ils sont encore contraints de ramasser.
À 21h, le feu est mis à des matelas dans la salle commune du premier étage. Le circuit électrique de la salle commune brûle entièrement, faisant exploser la télévision collective. En entendant crier « Au feu !», les retenus des autres blocs empilent des matelas à l'intérieur des salles communes. Mais la police intervient assez vite. Les retenus du deuxième étage sont évacués et entassés dans une salle commune du rez-de-chaussée. Des pompiers arrivent et maîtrisent l'incendie qui ne se propage pas aux autres étages. Mais le bloc qui a pris feu est inutilisable. Une enquête est immédiatement ouverte et après avoir visionné les caméras, les flics embarquent un retenu en garde à vue. Un autre retenu est mis à l'isolement. Les retenus de l'étage qui a pris feu sont dispersés dans les cellules des autres blocs. Ils se retrouvent à 5 ou 6 dans les cellules prévues pour deux.
Lundi 3 septembre, arrivée de renforts policiers dans le centre. Les effectifs sont doublés. Les flics procèdent à des interrogatoires de tous les retenus du premier étage ainsi que de quelques retenus du rez-de-chaussée.
Mardi 4 septembre. Le retenu placé à l'isolement suite à l'incendie est libéré à 10h. Il a été tabassé pendant son isolement. Il portait des marques de coups sur tout le corps sauf le visage. Le retenu placé en garde à vue suite à l'incendie passe en comparution immédiate dans l'après-midi. Il prend 8 mois ferme de prison et 1600 euros d'amende. Le proc a souligné qu'il purgera sa peine en totalité et qu'il sera expulsé à sa sortie.
Expulsion de deux retenus vers l'Algérie. Une dizaine de personnes se donnent rendez-vous à l'aéroport de Marignane. Avec l'aide des passagers, ils s'opposent à l'expulsion. Retour des deux retenus au centre de rétention.
Donc, du coup, vous êtes toujours sur ND Chaîne 88.4. Et juste pour donner quelques infos sur les dernières nouvelles de ce qui s'est passé dans le centre, c'est que ce qu'on peut remarquer, c'est que donc il y a eu tout un tas de gestes plus ou moins individuels, plus ou moins collectifs, et que là il y a réellement un rapport de force qui est en train de se créer, où il y a des retenues qui refusent l'enfermement et qui refusent les conditions de rétention, et du coup qui refusent l'enfermement en s'organisant à quelques-uns. Depuis ce week-end, il y a eu des grèves de plateau qui ont été mises en place. Il y a eu aussi des retenues qui ont fait des plaintes, des recours collectifs avec des plaintes contre des tabassages collectifs qui font suite à tous ces actes de résistance qui ont lieu depuis quelques mois et qui ont sûrement lieu un peu régulièrement dans les centres de rétention, sauf que là, pour une fois, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'information, elle circule et qu'elle sort de l'intérieur pour essayer d'aller vers l'extérieur, quoi. Et voilà sur les dernières informations, je sais.
Et du coup, on va passer juste une petite musique pour faire une transition, et après on vous lira un tract qui a été fait justement par rapport au comportement des associations qui interviennent légalement, donc à l'intérieur du centre, donc en l'occurrence Forum Réfugiés. Et on le fera juste après la musique, et on va annoncer une petite musique.
نيك لا بوليس خويا الخوفة من ربي مادامهم عايشين للحقرة عم يربحوا غير زبي هيا سيب السامبل سيب
أيوة
نيك لا بوليس نيك لانجستيس نيك تورمون نيك لا مونتاليتي خسرة اللي خلتنا في الخير مون نالي يقوي يتغول حتى نقولك راني كرهت من لامي دي دي طعلامي دي تيراني نالي يتبراسة في بوست مليح مادا بيه يبخوه مادا بيه يطيح عربي يحقر العربي عارك بوليس يحقر الشعبي علاه تحير خطرك مكومبليكسي لا مونتاليتي اصلا في عنده موك دي ريسبونسابيليتي شوفوا كيف نهبي ينصح رب المقلة هو جيعان في كرشو مشتاق ماكلة ملوم حتى واحد خويا دنيا قحبة مدام الانجينيار في بلادنا خدم نصبة عم تيزاو هالو عم دارو تير قريب يقولوا للي جن
روحوا سرقوا خير
نيك لي ريسبونسابل نيك لا وحق الشعب نيك لي دارو دراهم اللي ظهرنا بلا تعب نيك لا بوليس لي تحقر في الشعب انجليز نيك لي طار نيك لي بالي جيستيز
نيك 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 ونبريق عليك 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 خالدة
نيك 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 لا بوليس نيك لي طار نيك لا جيستيز
نيك 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 الدولة نيك حكومة لي حكرونا
نيك 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 لي جندر نيك لي موتر كل دي بطر
نيك لا بوليس نيك لي طار نيك الدولة كاملة راسة واحدة كاملة عايشين بقواتها ولا تسوولا يسيزيونهم بالدخان اللي دخلوا السلطة ما يقيسوش خاطش قلاوي خشانة يحقروا اللي ما عندوش واللي عنده يقولولو نيك قاس الرئاسة ما مشي كوركم قولولو جايبين عمر الشعب يحقروا في الزوالي نيك ديفيزيونار نيك كوميسار نيك الوالي نيك جينيرال نيك الوزير نيك ديبيدي كاع ديبيد نيك بيان بيجي كاع ديبيدي كاع حكارين نيك العطايا داك اللي رفدني فرحان وفرحان ميت بالفرحة كيزوزني ديديكاس من عندي للناس اللي تبيع في الغبرة اللي فوق بكاروشيرا للناس اللي مفيش اللي عندهم نيميرو ديكرو نيك لا بوليس في بالكيس في تطيرو نيك 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 عتيقة نيك خالدة
نيك 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 لا بوليس نيك ليطا نيك لا جيستيس
نيك 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 الدولة نيك حكومة لي حكرونا
نيك 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 لي جندر نيك لي موتر كل دي بطل
جابر مع الهموم والميزيرية صح صح ماشي سية هادي جية هادي بلية كره كره خويا شوف الحياة شوف البلاد خويا ليب ناري دوما زاد هذا بير كبير والسلطان حتى المير خلي الشعب يرداع خلي الجان يرتاح خلي الدم يسيح خلي الفور يجيح هذا ليف ماشي قوادة ديما عالي ديما الفوق دوبل شور هو قلبي زمان يجري زمان يدور تمنيت ها توجور قبل ما نزور دوك القبور صغري فات فتح زين حبيت نتهنى يا لطيف قلبي دبال برضو حنين خلي البية خلي السيف جيب السيل وجيب الورقه ما بيت ساب بلاد البحقه حق اخو راني سيت فاك ما ضرب وتفليقه نيك مو واش عطاني ما على بالي بحتى واحد واحد يا اصروح وراني حر يا خالده كباري في بلادي والسوا ولا تقوى مي في يبقى عالي لا كتاف ولا قلوه زوالي وراني عايش في وجه الدر والحجره تعيش يا جزائر حره مستقله حره مستقله حره مستقله
نيك 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 وتفليقه نيك عتيقه نيك خالده
نيك 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 لا بوليس نيك ليطا نيك لا جيستيس
نيك 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 الدولة نيك حكومة لي حكرونا
نيك 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 لي جندر نيك لي موتر كل دي بطر
نيك 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 نيك
Alors je vais vous lire le petit tract qui a été écrit pour parler du comportement donc l'association Forum Réfugiés suite à ce qui s'est passé le samedi soir après l'incendie. Forum Réfugiés, rapace et charognard de la machine à expulser. Forum Réfugiés est une association qui travaille à l'intérieur du centre de rétention avec les médecins. Ce sont les seuls intervenants civils dans le centre. Leur fonction est soi-disant de suivre les dossiers juridiques des retenus et de les aider dans leur recours, de veiller à ce que les conditions légales de rétention soient appliquées, de faire le lien avec les proches si les retenus leur demandent. Bien loin d'aider les retenus, cette association, comme toutes celles qui travaillent dans les centres de rétention, sert juste de caution humanitaire à l'État. Mais Forum Réfugiés ne se contente pas seulement d'être un vautour de la machine à expulser et de se payer des salaires sur le dos des migrants enfermés. Forum Réfugiés est un acteur de cette machine à expulser, au même titre que la police, les entreprises qui participent aux expulsions, celles qui travaillent dans les centres ou qui les construisent, Bouygues, Sodexo, Accor, Air France, SNCF, SNCM, CTN, etc. Ces derniers temps, au centre de rétention du Canet à Marseille, cette association s'est particulièrement appliquée à saboter les démarches juridiques et administratives des retenus, des recours envoyés avec quelques minutes fatidiques de retard, alors qu'ils étaient en mesure de faire ces envois dans les temps, des formulaires de demande d'asile fournis une fois sur deux, des dépôts de plaintes faites par les retenus qui ne sont pas enregistrés, des refus de communiquer aux proches certains renseignements, dont ceux concernant les dates d'expulsion. Ils vont même jusqu'à nier, devant les avocats, l'incendie du 1er septembre. Pour qu'ils pondent un communiqué sur les conditions de rétention, il aura fallu qu'il y ait presque mort de femmes cet été. Vêtus d'un uniforme bleu, d'une blouse blanche ou d'une étiquette humanitaire, la répression sera toujours la répression. Ces agents serviront toujours les intérêts de l'État. La meilleure des polices ne porte pas l'uniforme.
Voilà, donc ça c'était du coup un texte qui est paru dans Lutte de Crasse. Et voilà, donc ce qu'on a remarqué sur l'histoire de l'incendie, c'est que cette association qui a donc été choisie par l'État pour faire l'intermédiaire entre les retenus et tout le système judiciaire a décidé de se positionner clairement sur l'histoire de l'incendie en niant totalement ce qui s'y était passé. Donc effectivement, ce truc-là, ça pose des questions.
Ça empêche l'information de circuler.
Voilà, exactement.
C'est quand même très ennuyeux.
Ouais. Et par contre, après, c'est clair que bon, Forum Réfugiés, des fois, ça peut servir, voilà, comme tout organisme de l'État, dans le cadre de la loi et de la justice, ça peut effectivement servir pour faire des recours ou
pour lancer des plaintes,
des procédures, parfois, machin, nanana, ça sert. Tout, mais il faut toujours avoir en tête que c'est une association qui est payée par l'État et que même si les gens qui travaillent au sein de cette association, ils sont pleins de bonnes intentions, qui veulent aider les retenus, machin, nanana, nanana, sauf que toujours ce truc-là, il se fait dans le cadre légal de l'État et que du coup, c'est lui qui en définit les règles et que quand, par exemple, il y a un incendie, si à un moment donné, l'État, il veut pas que cet incendie s'ébruite parce qu'il faudrait surtout pas que si cet incendie s'ébruite, ça donne de bonnes idées ailleurs. Il ne faudrait surtout pas que l'information elle soit relayée à l'extérieur parce que s'il y a une solidarisation à l'extérieur, eh ben, ça pourrait faire que la lutte eh ben, elle soit nourrie et qu'elle se répande. Eh ben, Forum Réfugiés, leur position elle est claire, c'est-à-dire qu'ils ne font pas tourner l'information. Après, voilà, c'est à prendre toujours avec des pincettes parce que ça peut toujours servir quand même ce genre d'association pour avoir au moins des infos au niveau juridique, quoi.
Au niveau juridique, voilà, juste savoir qu'on peut pas leur faire non plus, voilà, 100% confiance, mais que.
En sachant très bien qu'à chaque fois, ce qui est dénoncé dans ce genre de choses, c'est les structures, c'est les mécanismes. Les mécanismes par lesquels l'État y réprime et à l'intérieur desquels, à l'intérieur de ces mécanismes, l'État il a besoin de cautions humanitaires ou d'espèces d'avocats gratuits qui vont réguler en fait ces flux migratoires parce que c'est ça qui se passe quoi, c'est que Forum Réfugiés ça sert aussi à réguler ces flux migratoires. Voilà. Et après, à partir de là, en ayant, en avoir conscience de ça, et quand même, bah, quand il y a besoin, essayer de choper quand même des infos, quoi. Et que la critique, elle porte pas forcément sur les individus qui travaillent à l'intérieur de ces associations et qui essayent de se démener avec le peu de moyens qu'on leur donne. Bon, c'est bizarre de... Pour moi, c'est assez bizarre de choisir de bosser à l'intérieur de la machine pour essayer de l'enrayer. Mais bon, voilà, c'est un choix. Mais qu'en tout cas, c'est pas forcément des mauvaises intentions, quoi.
Ouais, c'est souvent un choix sincère.
Malheureusement, c'est ça le problème.
Des gens qui croient sincèrement faire des choses bien. Et...
On peut le mettre en parallèle avec la Croix-Rouge, par exemple, qui participe aux expulsions et qui accompagne les retenus dans les avions pour que les expulsions se passent, entre guillemets, le moins violemment possible. Et que donc au final, partant de bonnes intentions, ils participent à l'expulsion en elle-même, quoi. C'est à peu près la même chose, quoi. Voilà. Et pour qu'on continue, ouais. Et on va continuer donc à la suite de ça. Donc on va vous passer des retranscriptions donc d'interviews et d'entretiens qu'il y a eu avec des retenus à l'intérieur.
En sachant qu'il y en a une des interviews qui est une interview de quelqu'un qui est sorti. Voilà. Ouais. Et que justement, ce collectif qui s'est créé cet été, son une de ses premières actions, c'est de faire sortir les informations, quoi.
On en voit.
Alors toi, t'étais dans le centre de rétention cet été ?
Cet été, ouais. J'ai passé 25 jours.
Et c'était quoi l'ambiance générale dans le centre ?
C'était bien entre nous, mais entre nous et les flics. C'était une autre chose. On se disputait toujours. Une eau frappe, des fois, dans les chambres, parce qu'il n'y a pas de caméra. Et c'était toujours comme ça. Elle insulte les gens. Et on ne pouvait rien faire. On peut se voir toute la journée. Et on est tous ensemble. C'est pareil. On est du musulman. On est des frères. Il n'y a pas du racisme entre nous. C'est pareil entre le noir, l'afghan, le tunisien, français, je sais pas, entre tout le monde.
Est-ce que, par exemple, ça pouvait arriver que les flics ils soient plus gentils avec certains retenus pour en faire des gens qui balancent ?
Ils balancent avec nous, mais on le connaît, tout le monde, c'est un balance, on parle pas avec eux. Voilà, les flics sont gentils avec lui, et en plus, il est sorti avant moi.
Et ouais, moi je me demandais aussi, Forum Réfugié, qu'est-ce que t'en penses et c'est quoi ton expérience avec eux, quoi ?
La vérité, j'aime pas ces gens parce qu'ils font zarma d'essayer d'aider les gens, mais eux, ils font de plus en plus des problèmes pour eux. Et c'est des bâtards, ces gens, voilà.
Je voulais qu'on parle du médecin et des médicaments dans le centre.
Premièrement, il n'y a pas le docteur, il y a des infirmières et je sais pas, des soignantes. Une fois, j'ai joué au ballon, là, j'ai tombé sur le genou. Je voulais demander de voir le docteur. Je l'ai vu, elle m'a... En plus, c'était pas le docteur, c'était l'infirmière. Elle m'a donné des cachets pour dormir. Je sais pas, moi. Je crois à les gens que c'est un défaut. Mais tout le monde, il donne les cachets à tout le monde. Il donne les cachets pour dormir.
Alors, cet été, il y a eu une histoire avec une Marocaine qui est partie à l'hôpital, qui a failli mourir. Est-ce qu'à l'intérieur du centre, vous étiez au courant ?
À l'intérieur du centre, non, on n'était pas au courant. On n'a rien entendu parce que les flics, ils disent rien. Et chaque bloc est séparé de l'autre. On ne peut pas parler avec eux. On ne peut rien faire. Juste les voir derrière le la fenêtre, derrière le verre.
Alors cet été, il y a eu plein de trucs qui se sont passés. Par exemple, il y a un retenu qu'on a vu. Lui, il a cassé la télé dans la salle commune. Ça arrive ?
Ouais, la vérité, il ne peut pas casser la télé comme ça. Parce que des fois, il se dispute avec les flics, il lui frappe dans les chambres parce que lui, il peut rien faire et c'est bon, il va casser la télé, il va casser des trucs, il va brûler les matelas. Et au moins, il faut faire quelque chose comme ça, il ne prend pas confiance. Et on est toujours là contre eux. Voilà, c'est ma dernière montre.
Donc tu dis, il y avait beaucoup de bagarres avec les flics, mais est-ce qu'à chaque fois, c'était des retenus tout seuls qui se battaient contre les flics, ou c'était...
Non, la vérité, chacun est tout seul, parce que les autres, il y en a qui ont eu peur, l'autre, il veut sortir, et bientôt, il sort. Et voilà, chacun, il fait ce qu'il veut. On ne peut pas obliger les gens de frapper avec nous. Quand j'étais là-bas, il y avait deux de mes collègues qui s'étaient expulsés. Mais quand même, on a essayé de faire quelque chose dedans, on a essayé de les aider, de les empêcher les flics, de les ramener. Mais dommage, mes collègues sont rentrés en Tunisie. Et bientôt, ils vont revenir.
Quand il y a certains retenus qui refusent plusieurs embarquements, on sait qu'ils les envoient... Enfin, ils les scotchent, ils les entourent de scotch, ils les baillonnent.
Ah ouais, il y avait un mec là que j'ai connu, il a été expulsé, il a été scotché. Il a été scotché comme une momie. Mais il a été envoyé en Algérie. Il a refusé l'embarquement du début, la première fois, mais la deuxième, il a été expulsé.
Ouais, alors, est-ce qu'il y a des parloirs sauvages au centre de rétention? Est-ce que ça arrive qu'il y ait des gens qui viennent et qui essayent de communiquer, des amis ou des proches?
En principe, il y a mes collègues qui n'ont pas de papier, ils viennent me voir. Mais derrière le mur, elles me jettent des sous, des trucs. Mais ils ont essayé de m'aider et je les remercie.
Et ça arrive souvent?
Ouais, c'est toujours comme ça, mais c'est pas, il y a pas que moi, il y a des autres prisonniers qui ses collègues, ils viennent les voir, ou ses copains, ses copines des fois. Mais il y a des femmes aussi qui viennent derrière les murs. Et on pouvait rien faire, même c'est pour faire des visites, il faut que tu aies les papiers, sinon tu rentres pas.
Tu étais au centre de rétention quand il y a eu le rassemblement le 4 août?
Ouais, j'étais là, c'était une ambiance à l'intérieur et on voulait mettre le feu. Ouais, on a entendu les manifestations, les flics sont venus. Même la commandante, la grosse commandante, elle est descendue pour nous voir. Elle a parlé avec nous, pourquoi vous faites ça, s'il y a des manifestations. Vous faites rien, vous écoutez, c'est tout. Ouais, la vérité, elle surveille plus, mais quand il y avait le rassemblement, l'autre fois, ils ont rentré avec nous dans le bloc parce qu'ils ont eu peur ou...
Et toi, maintenant que tu es sorti du centre, tu vis dans Marseille, et c'est quoi le quotidien d'un sans-papier à Marseille?
C'est pour moi, la vérité, moi je sors pas la journée, je sors presque la nuit, parce qu'il y a, en plus il y a les gens, ils ont eu peur des contrôles, et surtout là, en 2013, c'est la capitale de culture, de plus en plus des travaux et pour préparer tout ça, et les flics qui essayent de nettoyer un peu, qu'ils n'ont pas de papier.
Samedi à 21h, après le dîner, un feu a été allumé au deuxième étage et le bloc du deuxième étage a brûlé en entier. Ils ont mis tous les retenus de ce bloc dans les deux blocs du bas. Du coup, ils ont mis 3, 4, 5 retenus dans chaque cellule et on dort tous par terre. Ils ont arrêté un Algérien, ils l'ont envoyé au Beaumet et il y a des gens qui ont été mis à l'isolement. Ils sont en train de faire une enquête. À chaque fois, ils mettent quelqu'un à l'isolement et l'interrogent en lui parlant des images des caméras. Ils les menacent et les envoyer au Beaumet à cause de l'incendie. On ne sait pas ce qu'ils veulent en faire de ces gens qui sont à l'isolement. Hier, ils sont venus chercher quelqu'un dans notre bloc en l'accusant d'avoir fait passer un briquet avec une ficelle du deuxième étage. On a dit qu'on n'avait vu aucun briquet passer dans notre bloc. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire de nous. À chaque fois, il y a une nouvelle équipe de flics qui arrive. Ils nous menacent à longueur de temps, nous fouillent et fouillent nos cellules. Ils cherchent des briquets. Ils nous disent que si on fait entrer un briquet, on sera expulsé à coup sûr. Jusque-là, on attend. On ne comprend rien à ce qui se passe. Ils viennent régulièrement amener des gens pour les interroger. Ils ont mis en renfort un nombre hallucinant de flics. C'est une nouvelle équipe. Ils ne se comportent pas bien. Toutes les deux secondes, ils interrogent quelqu'un et lui demandent s'il a vu ou s'il sait qui a un briquet. Et jusque-là, on ne comprend rien.
Ouais.
Le matin, ils m'ont amené au tribunal à 8h30, ils étaient trois. Ils nous ont menottés les uns aux autres, j'ai protesté, ils m'ont dit « toi, tu parles beaucoup », alors que les autres se taisent. Et ils m'ont fait entrer seul dans un bureau. Ils m'ont dit « écoute, bientôt, on t'enverra au Baumettes ». Ils ont expulsé Zino et un autre mec en même temps. Ils les ont entourés de scotch et les ont expulsés un matin. Les gens voudraient s'évader, mais là c'est difficile. Ils ont ajouté des flics en renfort. Ils ont beaucoup de surveillance en ce moment. Si tu voyais à quel point c'est surveillé, t'aurais le vertige. Il y a plein de flics. Ils nous frappent beaucoup, ils nous menacent, ils nous traitent comme de la merde. En ce moment, tous les jours, ils fouillent nos cellules, ils nous frappent et foutent tout en l'air. Ils ouvrent les cellules à 6h du matin et ils ferment à 23h. C'est une cage à poules. Pendant le ramadan, ils ne voulaient pas donner aux gens leurs médicaments. Ils donnent peu de bouffe et même pas halal. Le médecin vient seulement une heure par semaine. Si quelqu'un proteste, il lui donne des cachets et l'isole dans une pièce.
Wesh, des chaînes 88.4. Et donc, vous venez d'entendre les interviews de gens qui sont sortis du centre de rétention. Et juste une petite remarque quand même, c'est que ce qu'on peut voir qu'il y a de super intéressant sur ce qui est en train de se passer en ce moment dans le centre de rétention, c'est qu'il y a tout un tas de pratiques qui sont en train de se transmettre, que les centres de rétention, souvent, c'est des lieux hyper compliqués pour faire émerger des luttes collectives, parce qu'en règle générale, les gens, ils restent pas longtemps, et que ça, c'est un espèce de turnover permanent qui fait que, ben, des fois, il y a quelques actes de résistance qui, hop, vont s'éteindre aussi sec. Et que là, eh ben non, ça se transmet aux nouveaux arrivants par des échanges de pratiques qui ont eu lieu et que ça continue et ça continue depuis bientôt 2 mois et que c'est quand même pas mal à souligner, quoi.
Et que, du coup, pour cet échange d'infos, ce qui est aussi pas mal de voir, c'est qu'il y a les sites sur donc Marseille. Donc il y a Milbabor, je sais qu'il fait pas mal passer le message, donc à regarder régulièrement ce qui s'y passe. Parce que là-dessus, vous pouvez trouver soit les contacts, soit les comptes rendus réguliers. Et sur la liste qui s'appelle MIA, donc Marseille Info Autonome, sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Donc mia@boom.org. Envoyez un message si vous voulez être inscrit dessus et vous aurez les infos tout le temps au fur et à mesure. Et ce qu'il est important justement, de, comme tu disais, de continuer à faire tourner ces infos et de créer des liens pour que la seule chose qui doit, donc de créer des rapports de force, nous permette de continuer, de renforcer ce rapport de force. Voilà. Et on va faire une petite musique.
Through ripped out speakers, through thick and thin, they found a shelter under my skin. How many darkest moments and traps the way it up on this land. How many final frontiers we gonna mount, and maybe no victory left. Stuck it out through thick and thin. I'm now to become the one with indestructible. And so no longer live I in fear. Them are too greedy to pay my asylum bills. This is my life, and freedom's my profession. This is my mission throughout all flight duration. There is a core, and it's hardcore. All is hardcore when made with love. The love is voice of savage soul. The savage love is indestructible. How many darkest moments and traps still ahead of us? No problem.
respectable. Undestructible.
Donc toujours sur ND Chaîne 88.4, on le rappelle plus, c'est tous les lundis à partir de 20h. Et donc là maintenant, on va parler de choses plus matérielles que jusque là. Et pour commencer, malgré tout, on va parler d'une revue qui s'appelle Échange, dont on vous parle assez souvent. On aime bien, c'est des marxistes, mais bon, c'est soluble, on va dire. Et donc, ils sortent aussi un autre petit fascicule, un petit fascicule de deux pages qui s'appelle Dans le monde, une classe en lutte. Un annuaire. Et qui donne effectivement, suite après suite.
L'annuaire des luttes.
Voilà, toutes les luttes et internationales, donc effectivement qui permet d'apprendre des choses qui viennent de loin dont on n'est vraiment pas du tout au courant. Et il se trouve que là, ils viennent de sortir un nouveau numéro, le numéro 141. Donc, elle était de 2012, et c'est une revue qui existe notamment dans le monde classe depuis 1993. Depuis 1993. Tu prends un micro, sinon tu parles pas. Alors, dans tous les cas, voilà, pendant un moment, la dernière fois, il s'était posé la question de savoir s'ils continueraient à faire ça sous la forme de papier ou s'ils restent en internet. Et donc voilà, les bonnes vieilles recettes, les bonnes vieilles marmites fonctionnent toujours. A priori, ils ont décidé de rester en version papier malgré le fait qu'elle existe en version internet. Donc le site, c'est mondialisme.org pour avoir donc Échange. Et sinon, pour l'autre, eh ben, c'est tout simplement Dans le monde, une classe en lutte. Quoi dire de plus que peut-être là sur le sommaire de celui qui vient sortir et dont on servira sûrement la semaine prochaine, parce qu'on va vous parler peut-être la semaine prochaine si on est prêt de la crise, et pas de rire, mais une crise en pleine croissance et une croissance en pleine crise. Et donc et là pour aujourd'hui, moi j'ai eu envie de vous préparer sur un tout petit article et pour vous donner envie de lire cette revue, un truc sur le refus du travail et le sabotage. Mais avant ça, on va vous lire l'édito du numéro, donc 141, qui vient de sortir.
Ouais. Marchandises, transport, capital et lutte de classe. Dans le mouvement contre la réforme des retraites de 2010 en France, ceux qui voulaient intervenir activement ont lancé le slogan « Bloquons l'économie » et tenté quelques initiatives en ce sens. Ils avaient raison et tort à la fois. C'est une banalité de constater que le capitalisme a étendu son emprise sur toute la planète, et même au-delà dans l'espace. Et que, s'il n'y a plus de cœur identifiable géographiquement, il dépend essentiellement de la circulation de tout, êtres humains, marchandises, argent, dans le but unique d'extorquer la valeur à la force de travail. Il va de soi que le rejet de cette exploitation, grève ou refus du travail, peut perturber le système d'exploitation.
On en parlera.
Cependant, la mondialisation et l'extrême division du travail ont permis aux entreprises de minimiser, voire d'annuler l'impact de tout conflit limité. En même temps, le capitalisme est ainsi devenu entièrement tributaire des transports, ce terme devant être pris dans le sens le plus large. L'organisation présente du système introduit une grande vulnérabilité et c'est en ce sens que le blocage pouvait prendre toute sa signification. Mais un blocage ne peut avoir de sens que s'il est assez important dans l'espace et dans le temps et empêche des transports de substitution de se mettre en place. Lors du mouvement de 2010, il est apparu que les routines des luttes passées influaient négativement sur les objectifs et les méthodes. Il n'était guère tenu compte de la réalité globale de l'organisation des transports et de ses véritables vulnérabilités. La radicalité n'est pas tant dans des actions de masse limitées que dans le choix d'objectifs précis. Une minorité peut faire beaucoup plus de ravages qu'un grand nombre, engagée dans une routine facilement encadrée par le système. Notre brochure sur les transports montre, au-delà de son aspect descriptif et historique, l'extension de tous ces réseaux entremêlés et les maillons contre lesquels certains groupes marginaux tentent d'intervenir, parfois avec succès.
Parfois avec succès. Et donc de rajouter voilà, dans l'histoire des transports, c'est qu'effectivement, là notamment on l'a vu au travers des grèves, de faire des espèces d'équipes de substitution pour être sûr que les grèves n'altère pas les flux et les transports, bon, on en voit toute l'ampleur, et effectivement. Donc voilà, le ton de échange et mouvement, vous aurez entendu, et donc c'est pour ça que moi je vais vous parler, notamment parce qu'on peut aussi aller voir sur leur site internet les discussions qu'ils ont entre eux sur des sujets donc comme ça un peu pointus. Et donc, dans le dernier échange, ils ont retranscrit une partie de ces discussions, notamment autour d'un texte qui avait été écrit en partie par George Kuzmanik, et qui s'appelle donc « Résistance au travail ». Et donc, alors juste, je vais vous présenter vite fait ce bouquin. Alors, je vous lis en fait tout bêtement la présentation qui est faite sur Internet. « Rares sont les romans, même de science-fiction, fondés sur l'invraisemblance. Il en est de même avec les enquêtes en sciences sociales. Il existe néanmoins des vraisemblances négligées, qui ne seraient donc pas des invraisemblances. Les résistances au travail en font partie. » Le management contemporain a beau exalter l'individu, il exige encore et toujours une subordination à sa logique. Il n'est pas aisé d'y échapper. Pourtant, aujourd'hui comme hier, la subjectivité rebelle se ferait un chemin. La logique de valorisation a supplanté le despotisme de la fabrique. Mais peu de salariés sont dupes. On peut céder sans consentir et faire le minimum tout en respectant les apparences. Les résistances au travail se situent dans les interstices de la domination. Elles reconstruisent des espaces d'autonomie qui échappent en partie à la domination. Elles anticipent et nourrissent l'action collective. On n'est pas obligé d'être d'accord et c'est justement pour ça que notre ami Henri Simon répondra. Ce livre expose et analyse ces pratiques non conformes qui ressurgissent toujours. La relation salariale est ainsi faite, n'en déplaise à ceux qui pensent avoir gagné la partie grâce à la précarisation et au chômage. N'en déplaise aussi à ceux qui, par leur analyse compassionnelle sur la souffrance au travail, négligent les capacités de résistance des collectifs. Tout ça avec la contribution d'un vrac de gens, je pourrais vous les citer, j'en connais aucun, Louise-Marie Barnier, José Calderon, Pascal Desportaires, Isabelle Farcy, Jordi, bon voilà, de toute façon vous verrez vous-même, et ce fameux George Kuzmanovic. Donc voilà, en fait, lui, il avait dit dans son ouvrage que le sabotage actuellement est un fait social majeur, et conclut, après avoir dit que le sabotage n'est pas marginal, que les formes de prise par le sabotage ne sont que les prémices de mouvements sociaux plus profonds. Les nouvelles formes s'intensifieront dans l'attente d'acteurs collectifs crédibles. C'est en ce sens que le sabotage peut être considéré comme un indicateur fort du rejet de l'ordre social, Il cite notamment l'exemple d'une série de 4x4 fortes qui, lors d'accidents, avaient causé la mort d'une centaine de personnes. L'enquête avait conclu à une série de sabotages dans la fabrication des pneus Firestone et un internaute de Mondialisme.org effectivement s'interrogeait. Parce que, effectivement, suite aussi à ces morts et à sabotage. Alors, Henri Simon, d'Échanger Mouvement, répondit ainsi, enfin presque, parce que HDC l'a un peu bousculé malgré son grand âge, pour qu'il parle, mais juré, on lui a pas fait trop de mal. Mais avant, on va vous parler de lui quand même, donc Henri Simon, qui signe HS, et il l'est pas encore, dans la revue Échange.
Ouais, donc une petite biographie, on va dire, d'Henri Simon. C'est pas très souvent qu'on donne des biographies, mais c'est pas souvent qu'on parle de gens qui ont 90 ans.
Eh oui.
Donc ouais, donc c'était un peu un fils de prolo qui a été quand
même. Peut y arriver.
Peut y arriver surtout dans ce milieu-là. Ouais. Surtout quand il commence fils de prolo à 90 ans. C'est plus rare. Et donc dans une famille d'influence socialiste avec quand même une mère qui faisait des collectes de vêtements pour l'Espagne révolutionnaire.
C'est une autre époque.
Il a rejoint d'abord la CGT où il a été séduit par le discours à l'époque combatif de la CGT. Mais en 52, la combativité avait bel et bien disparu et du coup il s'est engueulé avec la CGT et s'est fait exclure sur la pression des militants du PCF.
Ça vaut du galon, ça, mon ami, ça.
Donc il adhère ensuite à un groupe révolutionnaire d'orientation marxiste anti-stalinienne qui s'appelait Socialisme ou Barbarie, qui était un nom emprunté à une expression de Rosa Luxembourg. Et donc il participe à la revue du même nom, où il écrit des articles essentiellement consacrés au mouvement de grève en France, donc une grève dans les assurances en août 53, dans les banques, etc. Et par la suite, c'est quand même, ça deviendra un peu son credo, on va dire, les luttes et les mouvements sociaux. Donc en 62, il participe à un autre bulletin d'info qui s'appelle Information et correspondance ouvrière, donc ICO, donc on a parlé, qu'il quitte en 73. Parce que en fait le groupe avait été pas mal rejoint par des anciens étudiants 68ards et que visiblement le discours avait pas mal changé. Ah. Et
quoi ?
Oui, et bah, en fait l'année où il quitte, je crois que ICO périclite en même temps. Et donc ensuite, il s'inscrit, c'est pas sans rapport à la fac, pour faire préparer une thèse de socio consacrée au refus du travail. Thèse qu'il ne finira pas parce que il s'est fait voler tous ses documents de travail.
Est-ce un complot ? Est-ce un complot ?
C'est un complot. Ensuite, donc en 74, il écrit un texte qui s'appelle Le Nouveau Mouvement, qui sera le texte fondateur, on va dire, de du réseau Échange et Mouvement, enfin en tout cas c'est son manifeste qui a été fondé en 75. En 76 il a écrit un bouquin sur une grève dont moi j'avais jamais entendu parler, une grève générale contre la hausse des prix en Pologne. Donc le bouquin s'appelle Le 25 juin 76 en Pologne, travailleurs contre capital. Donc c'est une grève qui a duré que un jour mais qui a été victorieuse. C'est pas si souvent. Donc dans ce bouquin, Henri Simon montre le développement de cette grève et de cette victoire super rapide, et il essaye d'y démontrer, alors je l'ai pas lu, mais
il y a plein de choses d'Henri Simon qu'on n'a pas lu. Ouais.
Sans syndicat et sans parti politique, la classe ouvrière peut faire reculer le capitalisme.
Voilà. Donc
on verra. Et depuis, il est. Toi, tu l'as lu ?
Non, c'est pas ça, c'est que j'imagine qu'il a fait une analyse assez précise de comment les partis et les syndicats, à un moment donné, c'est-à-dire juste après la révolution russe,
ne
ils sont inclus
plus,
dans la reproduction du capital, c'est-à-dire qu'ils permettent...
Ne permettant plus le dépassement, en tous les cas. C'était Henri Simon.
Thank you.
24, vous êtes toujours sur NDChaîne 88.4 Radio Galère, et donc on va continuer dans notre élan et donc et de vous parler donc du refus du travail, et c'était notamment suite, comme je vous disais, à une question d'un internaute sur le sabotage, un internaute de mondialisme.org. Vous pouvez donc aller. Donc alors à Henri Simon répondit ainsi l'enfant presque, comme je vous disais, parce que HDC l'a un peu bousculé, malgré son grand âge, pour qui parle, mais juré, on lui a pas fait trop de mal. Alors il dit, en parlant évidemment de maintenant, aujourd'hui, et dans ce système, c'est-à-dire capitaliste, le sabotage au boulot n'est pas forcément un fait idéologique dû à une prise de conscience, mais c'est un fait social, une conséquence logique de la nature même du travail. C'est-à-dire, tout travailleur, à partir du moment où il entre dans l'entreprise, quelle que soit son opinion, son intérêt pour son travail, il va saboter. C'est-à-dire ne pas donner exactement ce que l'on attend de lui. À un moment ou à un autre, ses intérêts personnels vont entrer en conflit avec l'objet impersonnel que l'on voudrait qu'il devienne au taf. Alors, normalement, l'exploitation, enfin plus classiquement l'auto-exploitation, consiste pour le travailleur à un fonctionnement optimal de la machine humaine, garantissant ainsi l'extraction maximale de bénéfices sur l'ensemble de la machine de production. Alors, se demande Henri Simon, où se situe le sabotage dans l'ensemble de ce processus ? Et c'est une question, parce qu'effectivement la question est réellement qu'est-ce qu'on peut appeler sabotage ou pas. On peut voir le sabotage d'abord dans des actes conscients venant d'une conscience de classe ou autre conscience. Et beaucoup voient ce type de sabotage dans la destruction ou toute pratique qui interrompt le processus de production. Et cela peut même aller au-delà de ce processus lui-même, c'est-à-dire celui de la production, comme des sabotages qui n'impliqueraient pas forcément de destruction ou de malfaçon. Un exemple, aux États-Unis, sur une chaîne de montage de l'automobile, des travailleurs avaient placé dans le vide des portières une canette vide, provoquant un bruit qui fait rappeler des milliers de voitures. Alors, voilà, pour rien. Alors il ne fait aucun doute que ces actes conscients de lutte, bloquant ou ralentissant la production, ou atteignant le produit lui-même, peuvent être considérés comme du sabotage. Quant à d'autres, moins politiques ou collectifs, de la même acabit, doivent-ils alors aussi être considérés comme tels, en sachant que le mot sabotage pourra y être effectivement allié, mais parlons-t-on du même ? Alors, il faut élargir le champ de ces actions diverses auxquelles on peut appliquer le terme de sabotage en tant qu'acte pour comprendre toute l'étendue du geste, notamment comme ceux qui perturbent la création du profit, comme par exemple le refus du travail. Alors Henri Simon, bien sûr, va faire ici une distinction entre le sabotage à proprement dit et un détournement du temps de travail, ou ce qu'on appelle le refus du travail. Mais tout d'abord, il faut évoquer tout un ensemble de faits bien connus, pour revenir un peu en arrière, au temps du travail aux pièces, où le métallo sur sa machine pratiquait la perruque, pour lui-même et pour des copains, en confectionnant des pièces diverses avec le matériel, les machines et le temps du patron. L'employé de bureau avait de moindres possibilités, mais faire sortir son courrier pendant le temps de travail et le glisser dans le courrier de l'entreprise procédait de la même démarche. Et on peut aussi y associer la récupération qui consistait à sortir le matériel pour soi. De même, l'employé de bureau qui utilise la nouvelle technologie à des fins personnelles leur coûte un bras et les oblige à en faire la chasse. De même, la caissière de supermarché qui a toujours des moyens de récupération, au point que même dans la fixation du prix, un pourcentage correspond à des coulages. Impossible à empêcher, malgré tous les progrès des techniques et du contrôle. Voilà, bien beaucoup de gestes individuels et souvent solitaires. Et de même, dans le quotidien du travail, l'intérêt patronal va au-delà de la juste participation, de la bonne participation, où il lui faut assurer un fonctionnement sans heure du travail. Les possibilités pour le travailleur de choisir cette participation, cet engagement, lui donnent un pouvoir, et l'on pourrait les aussi qualifier de sabotage, le fait de juste réduire cette participation. Elle peut être considérée comme une opération consciente, individuelle ou collective. mais elle peut être aussi le résultat d'un intérêt personnel. Pour cela, des armées de sociologues, de psychologues, d'ethnologues et autres spécialistes à la con, là on va dire que c'est une note de la rédaction, essaient de trouver la clé de toutes ces réactions et tentent de définir les méthodes qui emprisonneraient toujours davantage le travailleur dans un tas de règles ramifiées à l'infini. La traque aux tamors par les patrons prend du coup des formes extrêmes autant que diverses, qui fait qu'aujourd'hui, il devient très difficile de développer une résistance quelconque. Cela pourrait bien entraîner une radicalisation des formes de résistance, et il dit bien cela pourrait bien entraîner, et donc, le développement du sabotage sous des formes plus concrètes et plus conscientes. Par exemple, dans le cas d'un conflit, une grève, terminée par une défaite, il peut s'en suivre une période de sabotage sous diverses formes, venant en plus de démarches individuelles ou de petits noyaux, mais qui veut dire qu'on va continuer la lutte par d'autres moyens. On peut aussi se demander si l'on peut qualifier de sabotage des réactions individuelles ou collectives contre le système capitaliste pris dans son ensemble, c'est-à-dire aussi en dehors du travail. L'éventail en est particulièrement large, depuis le blocage ou la destruction des moyens de communication, jusqu'au squat, la récupération de la marchandise individuelle ou collective, le piratage internet, etc. Mais on pourrait aussi considérer le refus du travail comme une forme de sabotage en dehors du travail même, dans la mesure où des individus choisissent, bien qu'ayant reçu du système une formation à un niveau ou à un autre, d'avoir une activité qui ne correspond pas à ce que le système en espérait. Frustrant l'investissement. De plus, s'ils utilisent pour ce faire les systèmes d'assistance par détournement des avantages sociaux, alors c'est peut-être encore plus du sabotage. D'ailleurs, l'apparition relativement récente de la notion de citoyenneté et d'attitude citoyenne répond précisément à ce type d'utilisation frauduleuse du système social. Autrement dit, certains prennent des droits, mais ne satisfont à aucune des obligations qui en seraient la contrepartie. Alors, ce ne sont pas de bons citoyens, des dissidents, note de la réaction. Donc, parce qu'il y a toujours un mais, il y a d'autres interrogations liées à toutes ces formes diffuses de sabotage, comme, encore une fois un exemple, l'absentéisme ou la manipulation du temps de travail, plus néfaste à une entreprise que les grèves. De même, le refus du travail par une marginalité même importante n'est-il pas inefficace dans la mesure où mondialement le capital peut puiser à volonté dans une immense armée de réserve qui ne cherche qu'à être exploitée à n'importe quelle condition. En fait, là, on parle des sans-papes. Alors après, on a continué à le torturer, le pauvre Henri Simon, mais là, elle n'a plus voulu parler. Alors, je vais terminer par une phrase qu'il n'a pas pu nous dire autrement, et qui termine son texte, et qui, pour le coup, on n'a pas su quoi dire. Un autre problème est le lien éventuel entre toutes ces formes de résistance. Pas tant dans une unification ou le développement d'une forme qui inclurait toute ou partie des autres, mais dans leur impact commun sur le fonctionnement du système, qui dans un développement ou un autre, effacerait les frontières pouvant apparaître aujourd'hui. Grosso modo, si j'arrivais à le comprendre, même sous la torture, qu'effectivement, la question, encore une fois, c'est le dépassement de ces pratiques, pas seulement en conscience, mais aussi en juste réflexion. Quoi, voilà. Henri Simon, si tu nous entends, tu peux nous appeler.
Nous envoyer un voilà. mail.
Envoie-nous un mail, donc internaute ND chaîne. Donc voilà, pour le coup, en rigolant encore une fois. Donc voilà, on vous incite dans tous les cas à lire cette revue. La semaine prochaine, on vous parlera, comme on l'a dit au début, peut-être, ou la semaine suivante, en tout cas, la crise en pleine croissance, et dans lequel il y a un article dans le dernier numéro d'échange. Et donc voilà, on vous incite à le lire même avant qu'on fasse cette émission. Pareil pour dans le monde une classe en lutte, ça se trouve sur internet, et encore une fois on vous incite à venir sur notre site, magnifique site ndchaîne .free ou sinon sur votre moteur de recherche préféré, et voilà, venir écouter ce que depuis de longues années nous racontons sur ces antennes. Voilà, solidarité avec tous les sans-papes incendiaires et avec tous les Kaira émeutières. ND chaîne pour cette fois, c'est fini. On vous embrasse parce que les gens aiment bien. Et aussi, peut-être au programme bientôt, une émission sur le sexe, la classe et le genre.
Et les classes sociales.
Voilà, sexe classé genre. Voilà, en attendant, bon lundi, il fait que commencer. Et à la semaine prochaine.
Ciao.